7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, on parle des légumes. Les légumes, c'est cher, c'est long à éplucher, disent certains. Mais je reviens du Sénégal et j'ai vu des mamans qui vendent désormais des juliennes de légumes au marché, tout coupé, tout prêt à cuisiner. Et dans le même temps, les pays émergents redemandent de la viande, malgré les problèmes de l'élevage sur l'environnement. Et puis en Europe, eh bien, les régimes végétariens vont bon train et les grands chefs se mettent en quatre pour faire redécouvrir les légumes. Alors faut-il vraiment manger des légumes quand on habite en ville, loin des jardins? Nous allons en discuter avec nos invités. Bonjour Yolande Berton au Fouémé.
Bonjour madame.
Vous êtes professeur du... Moi c'est Emmanuel, hein, tout simplement, hein, la voisine. Professeur d'université à Brazzaville, au Congo. Vous publiez l'accès à l'alimentation dans les grandes villes et vous êtes à Paris de passage à l'occasion d'un colloque qui se déroulera d'ailleurs le 6 décembre à l'UNESCO et organisé par l'Observatoire sur les habitudes alimentaires et la chaire alimentation de l'UNESCO, un colloque sur la défiance alimentaire qui touche tous les continents maintenant. Également avec nous Stéphane Lagorce, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef cuisinier à l'origine et ingénieur agronome et vous êtes professeur des sciences de l'aliment à AgroParisTech et vous publiez un traité de miamologie, les légumes et leur cuisine décryptée par le pourquoi. Beaucoup de recettes d'ailleurs, vous en citerez quelques-unes j'espère.
Oui, oui, c'est un livre...
Recettes pour les 7 milliards de voisins si possible.
Voilà, au moins, hein, ouais.
Frédéric Danhé avec nous également, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Journaliste, conférencier, spécialiste environnement, l'assiette est dans le pré, mieux manger, fait mieux vivre. Les paysans, c'est raconté sous forme de BD. Vous nous raconterez pourquoi, d'ailleurs. Oui. En général, on pense aux bienfaits des légumes pour la santé, mais pas vraiment pour les paysans et pour l'agriculture durable, quoique c'est peut-être en train de changer.
Hein, c'est en train de changer parce qu'on considère que l'agriculture, à tort, est mauvaise pour la planète. On considère que manger de la viande, il faut achever cette parenthèse. Hein. On s'est mis à manger de la viande en France pour faire comme le patron, hein, comme rouler en voiture. Voilà, il faut arrêter ça parce que ça cause des préjudices à la planète et donc on en revient forcément aux légumes, en particulier aux légumineuses.
Oui, si on mange plus de viande, que mangera-t-on? Thierry Pêche, directeur général du groupe de réflexion Terra Nova, justement est co-auteur d'un rapport sur la viande. Il faut absolument diminuer notre consommation pour l'environnement, nous dit-il. On l'aura en ligne tout à l'heure. Et quant à vous les voisins, on attend vos témoignages. Les voisines aussi bien évidemment, surtout celles qui sont derrière les marmites, racontez-nous ce qu'il y a dans votre assiette. 33 1 84 22 71 71, et vos messages également sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Je vous lis quelques messages. C'est la fête des légumes, mais alors en petit comité, hein, sur Facebook, je peux vous dire, ça on croule pas sous les messages par rapport à d'habitude.
Ah ouais.
Ouais, ouais, bah vous voyez déjà, ça dit quelque chose. Hein. Kevin est à Lubumbashi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Il nous dit, pour moi, une journée sans légumes équivaut à une journée sans bain. J'aime beaucoup le chou, j'aime bien la comparaison. Paco à Dakar, les légumes donnent à notre nourriture un goût délicieux, appétissant. Je les adore presque tous. Steve est à Parako, Bénin. Moi, j'adore les sauces typiquement faites à base d'aubergines et de tomates parce qu'elles me donnent de l'énergie. Si ma femme est occupée, c'est même moi qui les prépare. Et enfin, en plus de ces légumes, je prépare également les sauces à base, les sauces feuilles, comme on dit, hein, à base de manioc. Beaucoup de sauce feuille aussi chez vous, Yolande,
oui,
hein,
oui.
Au Congo Brazza.
Oui.
C'est ce qui agrémente le riz, la viande. On ne peut pas s'en passer, non, de ces sauces.
On ne peut pas s'en passer.
Une voisine au Bénin, Yacinthe, à Abomey-Calavi. Je consomme des légumes parce que c'est une vitamine essentielle. Cependant, je déplore aujourd'hui que les jardiniers fassent usage d'engrais chimiques. Un voisin au Tchad nous dit qu'il consomme de la laitue, de l'épinard, de l'oseille, des feuilles de manioc, évidemment, des feuilles de moringa qui sont à l'origine plutôt utilisée comme plante médicinale, non,
oui.
les flemmes de moringa, non, les...
Mmh.
Ouais. Ça, quel goût, vous savez, Yolande?
Je n'en ai jamais consommé.
Ah, vous n'en avez jamais consommé.
Mmh.
Freddy, non converti aux légumes, depuis quand le lion consomme-t-il des légumes? Je n'en consomme pas, au risque d'être confondu avec une chèvre. Mais c'est vrai qu'on dit souvent en France, quand on mange beaucoup de salade, qu'on a un peu l'impression d'être une vache.
Oui, oui, mais bon, on
peut donner cette impression.
Mais on reste omnivore, hein. Nos ancêtres cro-magnons mangeaient 20% de viande seulement.
On est aussi des vaches, c'est ce que vous dites. Enfin, on est omnivore. Après, Ouais, enfin, le problème dans la cuisine française, c'est que la viande et le poisson, enfin la viande, sont le centre de gravité autour duquel tout tourne. Mmh. Forcément, nos habitudes alimentaires, mmh. elles
deviennent
très carnées. Et puis après, on va faire comme le patron, le steak tous les jours. Enfin, ça, c'est l'affaire les suites de la Seconde Guerre mondiale.
Montrer qu'on a un porte-monnaie bien gardé.
Ouais, voilà, c'est des marqueurs.
Le steak et la voiture, hein, c'était des symboles de réussite sociale. Et puis effectivement, comme vous l'avez dit, le légume n'est plus qu'un accompagnement de la viande.
C'est ça. Mais
j'aimerais revenir sur le discours de tout à l'heure. C'était le retour en force de fruits et légumes et la conséquence de la défiance alimentaire, particulièrement des produits carnés. Alors moi, j'aimerais dire qu'il faut distinguer deux mondes. Il y a l'Europe et à l'Afrique. En Europe, cela fait plusieurs années que les gens consomment de la viande, et particulièrement de la viande rouge, hein, qui est décriée, qui est indexée du doigt depuis un certain temps. Et donc, s'il y a un retour en force des fruits et légumes, cela dit qu'à un certain moment, la population européenne a négligé la consommation de fruits et légumes au profit de la viande. Et donc, quand il y a eu des scandales sanitaires vis-à-vis des produits carnés, en ce moment-là, les consommateurs ont tendance à revenir vers les fruits et légumes. Alors que en Afrique, nous sommes dans un autre schéma. Nous sommes dans un autre schéma. Depuis longtemps, les populations consommaient presque bio.
Sans le savoir. Faute d'argent pour payer de l'engrais et des engrais chimiques.
Oui, bien sûr. Donc, on considère que les populations consommaient bio. Les légumes de cueillette, les légumes cultivés, etc. Surtout de la viande de chasse. C'est vrai qu'il faut dire qu'il y a eu aussi le scandale avec la viande de chasse, avec Ebola, etc. Ça a refroidi aussi les gens de ce côté-là. Mais ce que j'aimerais dire
C'est surtout vrai pour l'Afrique centrale, hein, la viande de chasse, la viande de brousse, qu'on trouve notamment dans la forêt. Hein.
Oui, parce que les résultats d'études récemment réalisées dans les pays africains montrent que la viande que les Africains consomment provient essentiellement, en dehors des pays sahéliens bien sûr, comme le Mali, provient essentiellement d'Europe, d'Amérique latine. C'est de la viande importée.
Et en notamment plus, le poulet. Hein.
Notamment le poulet. Donc c'est de la viande blanche. Ce n'est pas de la viande rouge, mais c'est de la viande de mauvaise qualité, parce que les gens consomment les pattes de poulet, les têtes de poulet, les croupions de dinde.
Alors toute la question est de savoir si on consomme en Afrique, notamment centrale, des légumes par défaut, à défaut de pouvoir se payer de la viande, qui serait finalement le rêve du continent africain, ou si aujourd'hui il y a également une prise de conscience sur la nécessité de consommer des légumes pour des questions environnementales et de santé. On accueille un voisin qui nous appelle de Kisangani en République démocratique du Congo. Bonjour Séraphin.
Bonjour Emmanuel.
Séraphin, alors vous souhaitez vous exprimer sur la consommation de légumes par rapport à ce que vous voyez autour de vous ?
Oui, oui.
On vous écoute Séraphin.
Oui, en fait, chez nous en République démocratique du Congo, les légumes constituent un repas en fait obligatoire, hein, puisque c'est facilement accessible et moins cher. Alors vouloir ou pas, on est donc obligé de les consommer, non pas parce qu'ils nous plaisent, c'est pas parce que ça plaît à tout le monde, mais tout simplement parce que nous n'avons pas les moyens de nous payer le luxe. À titre d'exemple, par exemple, une botte de feuilles de manioc coûte environ 300 francs.
Francs congolais.
Deux bottes peuvent suffire à une famille de 300 francs congolais, bien sûr. Et des bottes peuvent suffire à une famille de 5 personnes. Et si on ajoute d'autres ingrédients...
Oui, c'est-à-dire un demi-euro, les deux bottes de feuilles de manioc. Enfin non, même pas d'ailleurs, je crois. Un quart d'euro, donc vraiment quelques centimes d'euros. Ouais.
Exact. Et si on ajoute encore d'autres ingrédients comme huile de palme, sel, céleri, le total ne fait pas plus de 5000 francs. Donc moins de 3 $ si on veut voir.
Et vous comparez ça à quoi alors?
Je compare ça maintenant à la consommation des viandes. La viande, si on veut comparer un kilo de viande de porc ici, coûte environ 10 500 francs. C'est environ 8 dollars seulement pour la viande. La raison pour laquelle ici, les gens croient que manger de la viande, c'est un peu appartenir à une classe sociale un peu plus aisée que les autres.
Donc, par voie de conséquence, les légumes, nourriture du pauvre au Congo?
En fait, c'est ce qui est ancré dans la connaissance des gens. Et même moi, je suis étudiant en 5e année de médecine. J'essaie de faire passer le message sur les effets bénéfiques des légumes sur la santé, mais malheureusement, ça passe très mal. Car ici, chez nous, quand on a de l'argent, il faut bien manger. Et qui dit bien manger, dit manger de la viande, bien sûr.
Merci Séraphin de nous avoir appelé pour nous décrire un peu l'état des mentalités. On voit bien, vous nous le disiez d'ailleurs, Yolande Berton-Aufouémé, qu'on n'est pas du tout dans les mêmes schémas. Alors Stéphane Lagorce, où est-ce qu'on en est de la consommation de viande dans un pays développé, de la consommation de légumes dans un pays développé comme la France? Puisque c'est vrai qu'on a tendance à opposer légumes et viande, forcément.
Oui, toujours. Enfin, c'est vrai, mais enfin, c'est très intéressant ce que disait votre auditeur, là, sur le fait que la viande, c'est bien enfin, avant d'être un ingrédient culinaire, c'est un marqueur, c'est un discriminant social très fort, quoi. Et c'est ce qu'il nous dit. Et finalement, chez nous, c'est pareil. Et c'est pareil depuis fort longtemps. Quand on regarde un petit peu l'histoire de la cuisine française, parce que finalement, notre alimentation, enfin, chez nous, en tout cas en France, je parlais de la France, enfin, peut-être plus largement en Europe, enfin, en France, elle est conditionnée par un art culinaire préexistant. Et cet art culinaire préexistant qui structure notre façon dont on consomme, il place la viande au centre de gravité de la chose.
Et d'ailleurs,
si
aujourd'hui encore en France, on ne peut pas recevoir des invités, faire un dîner, comme on dit, en ville, recevoir des hôtes sans proposer une viande au menu. C'est très difficile socialement, non?
Où est la viande?
Oui.
Où est la viande? Il manque quelque chose au menu. C'est tellement ancré dans nous. Et effectivement, c'est très amusant de faire ce que vous proposez, parce que quand on se lance dans cet exercice-là de faire un repas sans viande, alors, ça dépend des gens que vous invitez, mais en général, il y a toujours, tiens, c'est surprenant, on attend que le plat vienne vraiment, le plat ne vient pas, finalement. Quoi.
Est-ce qu'on consomme beaucoup moins de légumes qu'au siècle dernier, par exemple?
Beaucoup. En fait, on ne consomme pas les mêmes. C'est-à-dire qu'en fait, au siècle dernier, on consommait beaucoup plus de légumineuses, de haricots, comme par hasard, les légumes qui venaient faire la concurrence à la viande qui était chère. Il faut voir aussi que le modèle agro-industriel a tellement changé et les prix ont tellement évolué qu'on a rendu accessible la viande au plus grand nombre, ce qui est peut-être un progrès en soi.
Accessible en termes de prix,
oui.
Parfois moins cher, des pilons de poulet
oui,
vendus
voilà.
En barquette sont moins chers que certains légumes.
Ah, hein. Oui.
Et puis surtout en termes de temps de préparation. Les légumes, s'ils ne sont pas tout prêts dans des sachets congelés, sont extrêmement longs à préparer.
Vous avez tout dit, faire cuire une viande, c'est facile. Enfin, c'est facile. A priori, c'est facile à faire. Donc on a un bénéfice immédiat et en plus en bouche, les papilles vont réagir tout de suite. Et puis vous aurez une sapidité plus forte parce que vous avez du gras qui va porter les saveurs. C'est le gras qui porte les saveurs. Pour obtenir la même chose avec les légumes, oui, il faut une sacrée science culinaire. Il faut avoir appris à les travailler. Il faut travailler des légumes frais, arriver à maturité.
Il faut éplucher, laver.
Il faut éplucher. C'est plus que faire à manger, faire cuire des légumes. C'est faire de la gastronomie. Mais alors, il y a quand même des raisons objectives au fait que la viande trône au milieu des plats, c'est quand même effectivement en bouche immédiatement plus flatteur que de n'avoir que des légumes. Un bœuf bourguignon, c'est quand même quelque chose, Emmanuel.
Vous suivez cet engouement, alors là, franchement assez curieux, notamment dans les pays anglo-saxons, sur le hashtag notamment avocado toast, c'est-à-dire qu'on a des centaines de milliers de photos sur Instagram maintenant avec de l'avocat écrabouillé sur du pain. C'est présenté comme le légume de ceux qui n'aiment pas les légumes. C'est quoi? C'est un épiphénomène ou c'est quelque chose qui dit quelque chose sur le retour des légumes?
La bouffe, au meilleur sens du terme, c'est des effets de mode, comme les régimes sans. Il y a 10% de gens vraiment allergiques, mais ça permet de se valoriser socialement, de montrer à quel point on existe.
Ça discrimine comme ça, oui.
Voilà, c'est des facteurs discriminants. Et l'avocat, c'en est un autre. Mais quand on regarde le coût écologique de l'avocat, qu'on ne vienne pas me faire rire avec la viande, c'est une catastrophe. Il faut voir comment c'est produit. Je suis allé en Afrique du Sud voir des champs d'avocats, c'est une catastrophe.
Vous nous appelez, alors faut-il croire au retour en force des légumes? Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, ça nous rapproche.
On est ensemble, c'est votre vie au quotidien.
Et la planète se barre.
Frédéric Danhé, derrière les légumes, il y a toute une économie maraîchère. Pourquoi vous avez choisi de la raconter en bande dessinée?
Alors, je ne parle pas que de maraîchage et de légumes, hein, c'est la bouffe en général, et c'est montrer à quel point bien manger, bah, derrière, c'est un message qu'on envoie à la société. Bien manger, c'est faire bien vivre les paysans qui entretiendront correctement les paysages. Pourquoi? Bah, voilà, on a créé une collection chez Delage Chauvigny-Hesley, on s'est dit que les livres en gris se vendent de moins en moins bien. Peut-être que la meilleure façon de toucher le public, c'est de tout résumer à quelques bulles, à quelques mimiques de personnages emblématiques. C'est ce qu'on a fait, manifestement.
Avec beaucoup d'infos dedans.
Avec beaucoup d'infos. C'est une gageure. Hein. Mais alors c'est très frustrant pour l'écrivain et journaliste que je suis et ex-ingénieur. Vous devez résumer un concept en trois phrases, dans une bulle ou en une mimique d'un personnage qui ressemble, par exemple, à Michel-Édouard Leclerc. Voilà. Mais finalement, c'est très excitant parce que ça touche droit au but.
Je vais vous prêter le livre, Yolande Berton au Fouet-Mai. Alors, vous qui êtes chercheuse au Congo Brazzaville, est-ce qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience qu'on peut réconcilier l'assiette et la production agricole, notamment sur la question des légumes ou pas?
C'est difficile à dire parce que, comme on dit, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Et donc, produire les légumes particulièrement à l'intérieur du pays, il faut les transporter jusqu'à Brazzaville. Donc, la consommation de carburant, etc., tout cela participe à la pollution de l'environnement. Par contre, ce que je voulais dire tout à l'heure que je n'ai pas dit, c'est que les légumes sont présents dans la culture des Africains. Il y a peu de plats ou de sauces sans légumes, comme l'a dit tout à l'heure un interlocuteur. Les légumes sont omniprésents, même si c'est...
Ne serait-ce que pour mouiller les céréales qui l'accompagnent.
Voilà,
même
si ce sont ils sont consommés
en petite quantité,
les légumes sont toujours présents dans les sauces. Bon, en ce qui concerne la défiance, on en a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas approfondi le terme.
C'est-à-dire la méfiance,
par rapport à la viande, aux produits carnés,
pour des raisons de santé, essentiellement,
pour des raisons de santé. Je pense qu'en Afrique, il n'y a qu'une partie, une toute petite partie de la population qui commence à prendre conscience de cela. C'est-à-dire les ménages aisés qui représentent moins de 30% de la population qui commence à prendre conscience de cela parce que cette couche de la population a les moyens d'acheter des produits de bonne qualité. En revanche, les familles pauvres qui représentent 70% de la population urbaine, de la plupart des villes que j'ai étudiées, cette couche de la population n'a pas de choix. N'a pas de choix en dehors de consommer les légumes en toute petite quantité. Ben, cette population consomme...
Ou alors des légumes très bon marché, comme les feuilles de manioc.
Comme les feuilles de manioc,
mais les feuilles de manioc,
on ne peut pas les consommer tous les jours. Donc, les gens consomment la viande, mais c'est des petites quantités.
C'est un
légume
qui cale beaucoup, la feuille de manioc.
Ah oui, la feuille de manioc, oui.
Qui donne vraiment le sentiment d'être rassasié.
Oui.
C'est pas le cas de tous les légumes.
Ça coûte moins cher. Ouais. Ça ne coûte pas cher. Au kilo, ça ne coûte pas cher. Comme le disait tout à l'heure le Congolais de la RDC.
Est-ce qu'il y a des scandales alimentaires qui ont pesé ou qui pèsent sur le continent africain, comme on a eu la vache folle, la grippe aviaire, la crise du canard français?
Le problème de l'alimentation en Afrique en ce moment, surtout concernant les produits carnés, c'est le contrôle de la qualité. Les services d'hygiène et
avec
les services...
Avec la chaîne du froid, c'est ça?
Oui, avec la chaîne du froid, et puis ce sont des produits vraiment de très basse qualité. Si c'était en Europe, ça devrait aller à la poubelle, hein. Parce que les têtes de poulet, je ne vois pas qui peut manger les têtes de poulet en Europe. Les pattes de poulet, les peaux de porc, qu'on appelle aujourd'hui le tapis rouge au Congo, c'est consommé le matin. Tôt le matin, c'est consommé à midi, c'est consommé le soir. Avant de venir ici, j'ai acheté une peau un tapis rouge. J'ai mesuré l'épaisseur de la graisse. Ça fait 5 cm. Donc, si vous mangez 100 grammes de cela, multiplié par 5 cm d'épaisseur...
La magie du gras, hein, on en revient à ça.
C'est le gras, c'est le gras. Et donc ça,
vous restez avec nous, alimentation et environnement. Faut-il augmenter notre consommation de légumes et diminuer nettement la consommation de viande pour des raisons environnementales? On va en parler notamment avec Thierry Pêche de la Fondation Terra Nova. Retour dans 3 minutes, appelez-nous les voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins, tout ce qui touche notre vie quotidienne, du nord au sud. Et aujourd'hui, les légumes, peuvent-ils retrouver le chemin de nos assiettes, notamment en Europe, on les a un peu perdus de vue. Il faut dire que les légumes sont chers, très longs à préparer. Et puis, dans d'autres parties du globe, notamment en Afrique centrale, où le maraîchage est courant. C'est ce que vous nous expliquiez, Yolande Berton-Ofouémé, professeure d'université à Brazzaville, au Congo. Eh bien, les légumes, c'est plutôt l'assiette du pauvre, quoique c'est sans oublier le fameux tapis rouge, cette fameuse coigne de porc, hein, pot de porc où il n'y a que du gras pour agrémenter les légumes. On en discute aussi avec vous, Stéphane Lagorce, professeur des sciences de l'aliment à AgroParisTech, et Frédéric Danhé. Vous publiez « L'assiette est dans le pré, mieux manger fait mieux vivre les paysans ». Ça, il fallait y penser, c'est pas encore gagné. On pense aux légumes pour la santé, mais pour l'environnement, c'est encore autre chose. Et chez vous, les voisins, on dit quoi sur les légumes? Je vous redonne notre numéro de téléphone, appelez-nous au 331 84 22 71 71, tout simplement pour nous raconter quelle est la place des légumes dans vos assiettes à la maison ou au travail. On accueille Thierry Pêche en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur général du groupe de réflexion Terra Nova et vous avez publié, vous êtes co-auteur d'un rapport sur la viande, enjeux, opportunités d'une alimentation moins carnée. Alors, ça nous intéresse de parler de la viande quand on fait une émission sur les légumes parce que forcément, on les oppose. Votre rapport conclut que le règne de la viande est révolu dans nos pays développés. Et en même temps, moi, je peux vous certifier qu'à la cantine de RFI et France 24, tous les jours, 80% des plateaux comportent un plat de viande. D'où ma question. En êtes-vous si sûr?
Alors d'abord, on n'a pas écrit ce que vous avez dit. C'est-à-dire, on n'a pas écrit que le règne de la viande était terminé. C'est un article qui a été consacré à notre étude. Qui
non, mais c'est quand même la conclusion à laquelle,
mais
en tout cas,
conclusion.
C'est
alors,
l'injonction à laquelle vous parvenez.
La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il faudrait diminuer notre consommation de viande par deux dans les 20 à 30 ans qui viennent et multiplier par deux la qualité de la viande qu'on mange. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Mmh. Alors, en effet, ça veut dire, et là je vous rejoins, qu'un un bon repas n'est pas nécessairement construit autour d'un morceau de viande. C'est cette idée-là qu'il faut casser, dissiper.
Pourquoi vous voulez casser cette idée-là? Quels sont exactement les méfaits pour l'environnement, puisque c'était le but de l'étude?
Alors, il y a en effet des méfaits pour l'environnement parce que l'élevage, et singulièrement l'élevage industriel, est fortement émetteur de gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, ce sont des activités qui mobilisent de façon disproportionnée des ressources qui sont précieuses et rares, que ce soit des terres agricoles, des engrais azotés qui nécessitent beaucoup d'énergie, ou de l'eau. Alors, il y a également...
On peut donner un exemple de consommation nécessaire d'eau pour faire pousser des légumes par rapport à du poulet ou une vache?
Alors, c'est un point très controversé. Les chiffres qu'on cite dans le rapport ont été discutés. Même si on prend d'autres chiffres, qui sont ceux que préfèrent les filières de la viande, c'est-à-dire la consommation d'eau pour produire une certaine quantité de bœuf, de porc, de volaille ou de légumineuses, sans compter les eaux de pluie. On est dans des rapports extrêmement élevés entre ce qu'il faut pour produire un kilo de bœuf et ce qu'il faut pour produire un kilo de légumineuses, c'est-à-dire beaucoup moins.
Oui, sachant que dans une assiette, ce n'est pas la même proportion de toute façon.
C'est pas la même proportion de quoi, pardon?
C'est-à-dire qu'on fait rarement un repas avec 500 grammes de viande, alors que pour avoir l'estomac calé, on a vite besoin de 500 grammes de légumes.
Oui, mais ça, c'est pas très grave, si vous voulez. Ce qui compte, c'est est-ce que nos repas nous apportent ce dont on a besoin, en termes de vitamines, d'oligo-éléments, et surtout, là, en l'occurrence, de protéines, parce que ce dont la viande est très riche, c'est des protéines. Est-ce qu'on peut compenser cet apport en protéines par des légumes de toutes sortes? En l'occurrence, c'est beaucoup les légumineuses, les protéines végétales les plus disponibles chez nous. C'est-à-dire des pois chiches, des lentilles, des choses comme ça.
Alors, vous appelez les Français à diviser par deux leur consommation de viande et de poisson, d'ailleurs, hein, puisque ça permettrait de diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'ici 2050, ce qui n'est pas négligeable. Vous avez 11 propositions. Est-ce que vous pouvez nous citer les principales, les plus importantes, qui seraient les plus efficaces à vos yeux ?
Alors, je vais m'y employer tout de suite. Ce que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas simplement des raisons environnementales, il y a également des raisons de santé publique. Les épidémiologistes ont montré qu'il y avait des liens très convaincants, des liens causaux, entre la surconsommation de viande, en particulier de viande élaborée, de charcuterie, de salaison, et l'apparition de certains cancers comme le cancer colorectal. Alors, pour nos propositions, il y en a une qui a été beaucoup reprise, notamment par le ministre de l'Écologie, Nicolas Hulot, c'est-à-dire la généralisation d'une option végétarienne dans les cantines scolaires pour les parents d'élèves qui le souhaitent pour leurs enfants et l'imposition d'un jour végétarien par semaine.
Ouais, un jour végétarien par semaine, ça veut dire tout le monde est aux légumes et aux céréales, en fait. Hein.
Une fois par semaine, en effet.
C'est ce qui pourrait faire changer les mentalités, justement, sur la tradition d'un repas sans viande qui n'est pas réellement un repas, on en parlait tout à l'heure, qui est socialement très bien ancré dans des pays d'Europe comme la France.
Alors, ça pourrait y contribuer, ça n'y suffirait pas. Et d'autre part, pour que ce soit possible, il faut faire toute une série d'autres opérations, et en particulier mieux former les cuisiniers, parce que c'est eux qui remplissent nos assiettes en restauration collective. Et souvent, ces cuisiniers ne sont pas préparés pour ça. Il faut leur apprendre, dans les lycées hôteliers, dans les écoles hôtelières, à non seulement produire une nourriture plus végétale, plus végétalisée, mais aussi à le faire de façon réussie, c'est-à-dire de façon à ce que ça procure du plaisir aux convives. Mmh. Il ne s'agit pas de dire que l'alimentation doit devenir une espèce d'ordonnance médicale. Ça reste un plaisir et un plaisir social.
Oui, parce qu'on l'a bien vu dans les messages qui nous sont parvenus sur les réseaux sociaux. Ceux qui mangeaient des légumes invoquaient d'abord des raisons de santé. Alors évidemment, c'est pas très sexy de parler en permanence de sa santé dans l'assiette, parce que manger doit d'abord être évidemment une nécessité, mais aussi un plaisir. D'autres propositions importantes, selon vous, Thierry Pech, avant qu'on se quitte ?
Écoutez, oui, il y en a pas mal d'autres, et il y en a une qui concerne en particulier, enfin il y en a plusieurs qui concernent les éleveurs, parce qu'il n'est pas question de construire un monde où ils n'auraient pas leur place. On va continuer à manger de la viande, il faut qu'elle soit meilleure et qu'on soit souvent capable de la payer un peu plus cher. Et pour ça, il faut aider les éleveurs à évoluer vers des modes de production qui soient plus conformes aux intérêts environnementaux et sanitaires, c'est-à-dire plus éloignés de ce qu'est aujourd'hui l'élevage industriel. Il faut les aider par exemple avec des primes d'herbe, pour qu'ils remettent leurs animaux sur les prairies, sur les pâturages. Il faut les aider aussi à se convertir avec des contrats de transition qui restent en large partie à imaginer, mais qui seront nécessaires à leur bien-être comme au nôtre.
Merci beaucoup Thierry Pech. Le rapport de Terra Nova est à retrouver sur Internet, sur le site de Terra Nova, et puis également sur notre page sur RFI.fr, à la page des 7 milliards de voisins, on va indiquer le lien. Merci d'avoir été en ligne avec nous. Stéphane Lagorce, sur la formation des cuisiniers, vous êtes cuisinier, chef cuisinier de formation et ingénieur agronome, vous publiez un traité de miamologie avec beaucoup de recettes. C'est vrai que qu'est-ce qu'on fait avec des légumes ? C'est souvent une question qui revient quand même.
Et oui, mais enfin, déjà juste un mot pour dire à quel point j'étais d'accord avec tout ce qu'on vient d'entendre, et que la seule façon de sortir du dilemme, c'est bien le plaisir. Enfin, c'est pas juste un mot en l'air, enfin, c'est vraiment complètement au cœur de la chose, quoi. Et donc le plaisir, c'est autant le plaisir de faire, c'est-à-dire que l'épluchage dont on parle ne doit pas être une corvée, enfin, et qu'au bout du compte, on ait quelque chose qui soit très savoureux. Donc c'est pour ça que moi j'ai écrit ce titre-là, c'est un titre qui est de nature technique, mais qui met le plaisir au centre de la chose, quoi. Et comment finalement s'emparer du continent légumes et d'arriver à en sortir quelque chose de plaisant, quoi. Parce que c'est vrai que le légume a toujours cette image un peu de punition gastronomique ou d'accompagnement périphérique ou de...
C'est ça, punition gastronomique. Ouais. Alors, s'il y avait une recette dont vous pouvez nous assurer qu'elle fait vraiment un tabac.
Alors, il y a bien une recette, par exemple...
Les frites.
On enlève la pomme de terre.
La frite mériterait un livre en elle-même, mais il y a une recette, vous me pardonnez, j'ai plus la page en tête, c'est une pizza qui est faite à base de polenta et de légumes. C'est-à-dire qu'en fait, on marie deux types.
Donc, semoule de maïs, la
polenta. Voilà, semoule de maïs qu'on fait cuire, qu'on étale sur une plaque qui devient la pâte à pizza qu'on fait habituellement. Et après, on met dessus des épinards, du fromage. Enfin, je n'ai pas la mémoire de mes propres écrits, vous me pardonnerez. Et donc, en fait, l'idée de cette recette-là, c'est de montrer en fait, qu'on peut reproduire des recettes tout à fait identifiées, très classiques, très gourmandes et très sympas et tout ce qu'on voudra, complètement autrement. Et en plus, ça va, tout en gardant l'intérêt nutritionnel dont on parlait tout à l'heure. Il ne s'agit pas non plus de manger que des glucides, hein, et qu'on on peut faire de la cuisine bonne et saine.
Yolande Bertin au Fouet-Mais, il y a une recette qui est extrêmement goûteuse chez vous, à base de légumes et essentiellement de légumes, au Congo-Brasa.
Mais les feuilles de manioc, c'est le plat national, le plat emblématique. Ça s'appelle le sakasaka. Tous les gens ne connaissent pas le nom de sakasaka.
On retrouve dans toute l'Afrique centrale.
Culturellement, c'est préparé avec du poisson ou sans poisson. Donc, mettons aujourd'hui, les gens peuvent mettre des aubergines, du chou. Donc, il y a des variations, des recettes variables. Alors, moi, ce que je voulais dire par rapport à l'intervention de ce monsieur-là, c'est par rapport aux sites alimentaires. Les sites alimentaires, c'est vrai, ne sont pas figés. Mais ça ne peut pas évoluer du jour au lendemain. C'est un travail de longue haleine. Les Français ont leur culture. Quand il y a eu des scandales avec la viande, la vache folle, etc., les gens ont reporté leur consommation sur le porc en premier.
La consommation de viande ne cesse de diminuer, globalement, depuis au moins 10 ans.
Le poulet. Sur le porc et le poulet. Donc la viande rouge, la consommation de viande rouge ne fait que baisser. Donc ce n'est pas en disant aux Français de baisser leur consommation de viande qu'ils vont le baisser. Parce que c'est une habitude alimentaire, c'est un style alimentaire.
Il n'y a que la peur qui fait changer les habitudes alimentaires.
Voilà, c'est quand il y a eu la vache folle que les gens ont baissé. Je crois que les statisticiens l'ont montré.
Sauf le poulet, je crois que la consommation de poulet n'a pas réellement
baissé. C'est resté stable.
C'est resté stable. La baisse de la consommation.
Et maintenant, elle prend la deuxième place. Donc c'est un travail de longue haleine, de sensibilisation. Et parce que les consommateurs
de civilisation, alliez-vous dire.
Oui,
c'est vrai, les habitudes alimentaires, ce sont des habitudes
des gens
de civilisation.
Ont leurs habitudes.
Fatoumata est en ligne avec nous, elle nous appelle au standard au 33 1 84 22 71 71. Bonjour Fatoumata. Ah, Fatoumata vient de raccrocher. Bon, on l'a laissé un peu trop patienter. On va essayer de la rappeler. Elle nous appelait des environs de Dakar. Quel avenir pour les circuits courts, pour approvisionner les villes en légumes, puisque, on le sait maintenant, plus de la moitié de l'humanité, sur tous les continents presque, vit en ville.
A priori, l'avenir est pour eux, parce que les circuits courts, d'ailleurs tout ça, il y a un aspect affectif très fort, c'est que le paysan, on va forcément le croiser vu qu'il habite pas loin. Et le seul fait de savoir que les aliments, que les légumes viennent de pas très loin suffit à rassurer le consommateur. Mais en même temps, pour faire du maraîchage, comme on en faisait avant autour de Paris, dans les années 50, il y avait une ceinture maraîchère autour de Paris, pour ça, il faut du foncier. Et le foncier, partout dans le monde, y compris autour des plus grandes villes africaines, est hors de prix. Puis troisièmement, c'est pas parce que vous faites du maraîchage à proximité des villes, c'est pas parce que vous faites du local que c'est forcément bon. Ça, c'est le grand argument de la FNSEA, c'est local, donc c'est bien parce que c'est français, tout ce qui est français est bien. Non, faire du maraîchage gavé de pesticides et d'engrais, ça a quand même pas beaucoup de sens. Je dis pas qu'il faut tout passer en bio, parce qu'entre le conventionnel et le bio, il y a plein d'itinéraires que les agriculteurs savent inventer eux-mêmes. Donc le local, oui, parce qu'il introduit une notion affective très forte. Je sais d'où ça vient à peu près. En plus, ça a été transporté sur une faible distance, donc forcément les fruits et les légumes auront été cueillis à maturité. Il faut bien comprendre ça. Un fruit et un légume, qu'il soit bio ou pas, n'a vraiment d'intérêt que s'il est riche en nutriments, et il est riche en nutriments s'il a été cueilli à maturité, pas s'il a été transporté sur 5000 km.
Sur le foncier, justement, Yolande Bertin au Fouet-Mais, c'est un problème aujourd'hui pour approvisionner les villes en légumes, le manque de terrain disponible aux portes des villes africaines pour faire du maraîchage, du légume.
Oui, oui. Ça augmente le prix des légumes. Et du coup, quand on a réalisé des enquêtes de consommation la semaine dernière sur le marché, trois tiges d'épinards, donc c'est moins de 100 grammes, ça coûte 200 francs. 200 francs CFA, je ne sais pas combien ça fait en euros, mais c'est cher. Et en plus, c'est un légume qui réduit dans les sauces. Ouais. Et dès qu'on met les épinards dans la baselle, dans la sauce, ben ça réduit, ça disparaît. Donc, c'est déjà 3 tiges en saison de pluie.
Le manque de terrain augmente le prix des légumes.
Ah oui, bien sûr. Puisque la plupart des centres maraîchers qui étaient à proximité de la ville ont été... comment dire, fermé avec les aménagements des infrastructures routières.
Et c'est pas un problème propre au Congo, au Brazzaville?
Ah non, à Bamako, j'ai vu la même chose. À Cotonou, c'est pareil. À Luanda, c'est la même chose. Donc, c'est un problème qui concerne la plupart des grandes villes.
Combien de temps faudra-t-il pour acheminer des tomates, qui sont des denrées particulièrement difficiles, fragiles à transporter, avec la croissance des villes en Afrique et l'étalement urbain qui fait qu'il y a encore plus d'embouteillages pour acheminer les camions de légumes et de fruits, d'ailleurs. On a retrouvé notre voisine qui nous appelle des environs de Dakar. Bonjour Fatoumata.
Bonjour.
Soyez la bienvenue. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On vous écoute, Fatoumata. Vous êtes à l'antenne en direct.
Oui, d'accord. Bien, moi, j'ai la chance d'habiter au Sénégal dans un secteur maraîcher. Donc, c'est vraiment formidable au niveau des légumes, il y en a partout. Au Sénégal, je dirais que la base de l'alimentation, c'est le riz, mais beaucoup de légumes. Tous les gens mangent des légumes tous les jours. Et faire un marché de légumes, c'est pas très cher. Et bon, moi, je mettrais l'accent sur la variété des légumes qu'on peut trouver, que ce soit ici ou en France, dont je suis originaire. Moi, ce qui me plaît dans les légumes, c'est leur goût, en fait, mais surtout les légumes bio. Et ici, avec mon mari, nous faisons des petits jardins potagers avec des semences ou des plants bio, je précise, parce que ça a quand même beaucoup plus de goût.
Hein ? On trouve des légumes bio maintenant plus facilement dans les environs de Dakar, Fatoumata ?
Dans les environs, je ne sais pas. Bon, moi, je suis justement allée avec mon mari hier à un grand marché bio sur Dakar, au Monument de la Renaissance.
Ah oui.
Et des légumes, il n'y avait qu'un stand de légumes, mais qui marchait fort. Hein. Mais il y a des petits marchés bio qui commencent, mais surtout sur la ville, parce que c'est une espèce d'effet de mode pour les riches, on dira. Hein.
Mmh. Oui, c'est ça. Alors, toute la question est de savoir si vous êtes représentatif, Fatoumata, mais bon, vous l'admettez hein, que vous ne l'êtes pas. Vous avez dit au standard que les amis de votre fille ne sont pas vraiment en mode légumes.
Oui, bon, elle est en France, ma fille. Hein, donc, c'est vrai que quand les amis de ma fille venaient manger chez nous, c'était un peu difficile de leur faire avaler des légumes. Ils mangeaient plutôt des choses, de la mauvaise bouffe, quoi, comme on dira, hein, des pizzas, des choses comme ça, beaucoup de pâtes et tout. Et moi, avec mon mari, on a vraiment le goût de manger des légumes et de les préparer, parce que je trouve que c'est tout un art de vivre, de préparer des bons légumes qui ont du goût. Et le fait de préparer, après, c'est tout un processus pour vraiment apprécier un bon repas, quoi.
Ouais. Un plat préféré, Fatoumata, avant qu'on se quitte ?
Des légumes sautés avec un peu de riz, et puis quelques légumineuses, soit des pois chiches ou des petits pois.
Et puis si possible, on ne met pas 3 bouillons cubes dans les légumes, hein, on évite, on met un peu d'herbe à la place.
Non.
Ça, c'est pour les conseils qu'on trouve dans Priorité Santé, l'émission précédente à la nôtre.
Oui, on aime beaucoup les plantes aromatiques, donc on a beaucoup de basilic, de choses comme ça, de coriandre. On préfère mettre ce genre de choses dedans. Quoi.
Voilà, vous êtes dans la région du Lac Rose, hein, pas très loin de Dakar. Merci de nous avoir appelé, Fatoumata. Vous pouvez continuer de nous appeler au 33 hein, 84 22 71 71. On va donner quelques recettes tout de même dans quelques instants avec le traité de miamologie.
Gente bonita é foto, gente boa é lembrança, é gosto, é cheiro, é toque, tempero, pedaço de infância, o resto é rosto, é risco duvidar que nos alcança, é a brisa que vira o barco, fundando com a maré. Desde pequeno mamãe dizia: cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica. fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usa. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto perto, mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude, mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude. Hoje só quero a pureza disso comigo, verdade de olhares sinceros, onde posso encontrar abrigo. Desde pequeno mamãe dizia, cuidado com as voltas que o mundo dá. Menino, saiba que a alegria e a dor estão no mesmo lugar. Amor de verdade é livre, não fica tentando secar. A diferença entre o remédio e o veneno é a dose que se usa. Ainda mais quando se tem afeto, quando se quer junto perto, mesmo se o caminho é incerto, de certo que vale apostar. Mais linda se eu não tô completo, saiba que isso tudo é um processo. O que busco é bem mais complexo, lhe peço que saiba julgar. Que água leva maquiagem, tempo leva juventude, mágoas nem sempre são passagens, ainda mais se a gente se ilude.
C'est Fiotti chez 7 milliards de voisins qui chante Gente Bonita. Alors, on parle des légumes aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant la chanson, on parlait de la main-d'œuvre absolument colossale que nécessite, par exemple, la préparation du sac à saka à base de feuilles de manioc. Yolande Berton au Fouémé. Vous nous disiez 4 à 5 heures pour avoir un bon sac à saka.
Oui.
Oui. Quand même.
Oui. Et il faut... donc, du pilet au mortier, au pilon, donc c'est pas tout dépend de la quantité.
Pourtant, hein. Alors vu de loin, ça ressemble à des épinards. Or les épinards sont justement très vite cuits, hein, et très facile à préparer. Après, est-ce que ça séduit son public? C'est pas sûr, mais
ah oui, à la fin de la cuisson, c'est tendre, ça ressemble à un plat d'épinards.
Mais la cuisson qui est très lente.
La cuisson est longue. Du coup, les ménagères parfois préparent le sac à saka le samedi pour le consommer le dimanche.
Alors, voilà. Pour ne pas décourager les consommateurs qui voudraient se lancer dans la cuisson, dans la consommation, dans la cuisine de légumes, qu'est-ce que vous préconisez, Stéphane Lagorce, dans votre traité de miamologie? Quelle est la recette qui fait son effet?
Quelque chose qui fait son effet, qui est vraiment facile et qui va super vite. On prend des aubergines, on les épluche, ça va vite. On passe un citron dessus, ça va vite. On les coupe en tranches, ça va vite. Tranches épaisses, je précise. On les cuit à la vapeur. Donc il n'y a pas de gras, ça va très vite. Et on se retrouve avec des tranches d'aubergines cuites. Et puis on les traite, on met une vinaigrette dessus ou un peu d'herbe hachée. C'est tout simple, c'est super bon, il n'y a rien à faire.
Ouais, vous pensez à une autre recette?
Y a d'autres recettes de légumes sautés. On a tout le temps le réflexe de faire cuire les légumes dans l'eau, vous savez, la cuisson. En fait, non, il y a une recette
de d'ailleurs ce qui les rend pas très sexy, hein, les légumes cuits à l'eau.
Il y a une recette de chou-fleur rôti, par exemple. On le rôtit comme un poulet. C'est délicieux. Voilà. En fait, il faut un petit peu changer les usages et s'inspirer de ce qu'on fait dans la viande pour faire les légumes.
Ouais, alors, on a une voisine qui nous appelle pour conclure l'émission. Anissa qui nous appelle de Paris sur les légumes. Bonjour Anissa.
Bonjour et bonjour à toute votre équipe. Une émission très intéressante et ça m'a inspirée. Donc, je me suis dit, il faut que je les appelle. Je vous ai écouté pendant 15 ans en Afrique quand j'étais au Congo. Et là,
Alors, il vous reste une minute, Anissa. Alors, dites-nous.
Je suis en train de cuisiner.
Ah,
dites-moi.
Alors, dites-nous justement ce que vous êtes en train de cuisiner.
Alors, je suis en train de... Alors, c'est pour dire que moi, j'ai grandi en Algérie petite et on mangeait plus de légumes que de viande. La viande, c'était une fois la semaine quand c'était des beaux jours. Donc on avait on a toujours de magnifiques plats à base de légumes. Et là, je vais vous dire ce que je suis en train de préparer. J'écoutais en rigolant parce que je me suis dit, effectivement, ça prend du temps. J'ai de la menthe. Comment vous appelez ça? Pouliot. On appelle ça flio en Algérie.
De la menthe?
La menthe pouliot.
Ouais.
La menthe pouliot.
D'accord. Donc la menthe, l'herbe aromatique.
Oui, c'est une herbe, bien sûr. Je suis en train de l'essayer et je la fais avec... C'est un plat simple, juste avec des légumes, avec des pommes de terre, de l'ail, de l'huile, un tout petit peu de ce qu'on appelle en Afrique centrale le pili, mais chez nous on appelle ça delsa, le piment écrasé. C'est un délice.
Ouais, d'accord. La base de pommes de terre, évidemment, avec la menthe, ça transforme tout sur son passage. Hein, et puis un petit peu de piment, un peu d'ail,
d'huile. La menthe avec le, c'est pas la menthe avec laquelle on fait de l'ail. Hein.
C'est ça.
Avec laquelle on fait de la.
C'est pas la menthe du thé à la menthe, c'est ça. Mais
pas du tout.
Je vois pas bien quel est le goût, mais on va se renseigner. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir appelé, Anissa.
Toujours, sinon, on avait 50 plats en. Uniquement. Là, je reviens d'Algérie, j'ai mangé des plats avec des fèves fraîches, des. Petits pois et des artichauts, zéro viande.
Ouais. Eh ben, bon appétit, Anissa. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Frédéric Danhay, redécouvrir les légumes, à quelles conditions, en quelques mots?
À quelles conditions? Il faut qu'ils soient frais, il faut qu'ils soient à peine épluchés, le moins possible, le moins cuit possible, de façon à ce qu'on en conserve les nutriments. Ce qui est important, c'est qu'ils soient frais et qu'ils aient été cueillis la veille ou l'avant-veille. Mmh. Sinon, ils vont perdre durant le transport la plupart de leur goût.
Et pas de honte à consommer des légumes, n'est-ce pas, Yolande Berton au Fouémé?
Oui, ouais, que les Africains continuent à consommer les légumes, sauf qu'on n'est pas encore à la surconsommation de viande parce que les quantités consommées sont très faibles.
Voilà. Merci à vous, Yolande Berton au Fouémé. Vous publiez l'accès à l'alimentation dans les grandes villes chez l'Harmattan. Stéphane Lagorce, traité de miamologie, les légumes et leur cuisine décryptée par le Pourquoi, édité par Laruche qui dit oui. D'ailleurs, c'est le premier livre de ce.
Par les éditions 180.
C'est ça. Et Laruche qui dit oui.
Excellent
organisation engagée. Et Frédéric Danhay, l'assiette est dans le pré. Mieux manger fait mieux vivre. Les paysans, édition de la Chaux-et-Niesselet. Merci.